le journal avec vous, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour.
L'actualité de ce lundi 9 août, c'est bien sûr l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les cafés, les restaurants, les terrasses, les transports, pas de panique. Il y aura une petite semaine de tolérance et de rodage. Les autres titres, Laurence ?
La pression continue de s'accroître sur les hôpitaux, des patients plus jeunes en soins intensifs, mais qui restent moins longtemps. Pas d'optimisme du côté du climat, l'heure est très grave, le réchauffement climatique s'accélère. Le rapport très attendu du GIEC sera dévoilé ce matin. Les talibans étendent leur pouvoir, ils contrôlent 5 capitales régionales en Afghanistan. La prise de Kaboul, la capitale, n'est pas leur priorité. Leur stratégie est différente, nous expliquera un spécialiste de cette région. En route pour Paris 2024, les JO changent de main. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation, et Anne Hidalgo, la maire de Paris, comptent bien sillonner le pays pour mobiliser les Français pendant 3 ans.
À 7h45, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, les intempéries font-elles pourrir les récoltes, le gel du printemps, les pluies de l'été, l'agriculture sous perfusion et la question de la pollution aussi à l'heure où les experts du GIEC rendent leur rapport. Et puis à 8h20, le train, l'avion, le bateau, l'extension du pass sanitaire, qui contrôle, qui sanctionne, les modalités, les enjeux d'un pass qui divise les Français, le ministre délégué chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari au micro France Inter, notre invité. Vos questions, chers auditeurs, appelez-nous, on vous attend, le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter.
Et c'est parti, la France passe à l'heure du QR code. Jusqu'au 15 novembre, il faudra désormais montrer patte blanche pour accéder à un certain nombre d'activités. Ce pass, pour être valide, doit témoigner, rappelons-le, soit d'un schéma vaccinal complet, soit du rétablissement de la maladie à travers un certificat de test positif d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois, et soit enfin d'un test négatif datant de moins de 72 heures. Bonjour Mathilde Demy.
Bonjour Laurence.
Petit mode d'emploi de ce sésame, hein, comment l'obtient-on ?
Alors ce qu'il faut présenter, c'est le code barre, le QR code valable sur papier ou en format numérique. Normalement, on vous l'a remis lors de votre deuxième dose de vaccination. Sinon, il est sur le site de l'assurance maladie, attestation-vaccin.amélie.fr. Pour les résultats de tests PCR, antigénique, autotest, on vous l'envoie souvent par mail ou par texto. Enfin, le certificat de rétablissement, c'est tout simplement le résultat positif de votre test. On le rappelle, moins de 6 mois, plus de 11 jours. Et si vous ne le retrouvez pas, au-delà de 3 mois notamment, il faut se rapprocher de son laboratoire.
Et à quoi va-t-il nous servir, Mathilde ?
En théorie, vous devrez le présenter pour rentrer partout où vous allez croiser du monde. On avait déjà tous les lieux culturels, sportifs ou de loisirs. On vous le demandera désormais dans les cafés et restaurants, en terrasse et en intérieur, les très grands centres commerciaux, sur décision du préfet, dans les trains, longue distance, TGV, intercités, les fêtes de mariage, mais pas les cérémonies civiles ou religieuses. Enfin, dans les hôpitaux, passe obligatoire pour une consultation sur rendez-vous ou une visite, sauf contre-ordre, mais pas de passe en cas d'urgence.
Et enfin, qui va contrôler ce passe sanitaire ?
Les contrôles à l'entrée se font par les responsables d'établissement ou les agents SNCF ou les organisateurs d'événements, c'est selon. Ils devront flasher le QR code. Ils ne pourront demander aucun détail sur votre santé ni contrôle d'identité. En cas de défaut de passe, ce sont les forces de l'ordre qui pourront, le cas échéant, dresser des amendes. La première, sans récidive, est à 135 euros.
Merci Mathilde Demy. Un passe qui va désormais rythmer nos vies alors que la tension se fait sentir dans les hôpitaux où les cas de Covid affluent. Rappelons que le plan blanc a été déclenché en Corse, en Occitanie et en région PACA. À Toulon, le service pneumologie de l'hôpital Sainte-Musse, on parvient à garder la tête au-dessus de l'eau, tout du moins pour le moment, car les patients sont plus jeunes et ils restent moins longtemps hospitalisés. C'est le reportage d'Alice Cachaner.
Je vais appeler parce que au quelqu'un, on n'a plus de place.
Devant le tableau de planification, les soignants jonglent avec les rares lits disponibles.
Quand on regarde comme ça, on a l'impression de se retrouver un peu dans la situation d'octobre-novembre de l'année dernière. Il y a 3 semaines, il y avait 3 patients Covid. Là, vous voyez qu'il y a 3 secteurs Covid.
La 4e vague est bel et bien là, les admissions sont nombreuses, mais les sorties aussi, ce qui permet au service de pneumologie du docteur Mérien de tenir le coup malgré la période estivale.
Ce qui différencie les vagues précédentes, c'est qu'ils se remettent beaucoup plus rapidement de la maladie. On a eu des passages en réanimation, mais de courte durée. La gravité semble moins importante que pour le variant anglais.
Il faut dire que la moyenne d'âge a bien baissé. La plupart des patients à moins de 50 ans. De larges cernes sous les yeux après 6 jours sous oxygène, Amir peut enfin rentrer chez lui.
Franchement, ce virus, c'est une saloperie. Donc moi, je conseille aux gens de se faire vacciner au maximum. J'étais pas pour au début et je commençais à changer d'avis, mais c'est trop tard, je l'ai chopé avant.
Un nouveau profil de patients, plus jeunes, parfois anti-vaccins, et qu'il faut aborder autrement, nous raconte cette infirmière.
Il y a beaucoup d'informations qui arrivent auprès des gens et on se retrouve face à des personnes qui ne font du coup pas forcément confiance ou qui revendiquent certaines choses ou qui ont certaines croyances. Il y a de la suspicion, c'est étonnant.
Malgré des flux tendus, l'hôpital n'envisage pas de déprogrammer des interventions ni de rappeler ses équipes en congé.
Alice Cachaner est face à la recrudescence de l'épidémie aux Antilles. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, appelle tous les volontaires à venir en aide aux hôpitaux ultramarins, et notamment en Martinique et en Guadeloupe. Des cas positifs et des cas contacts sur un bateau de croisière qui a accosté hier à Marseille. Les personnes concernées sont placées à l'isolement. Elles avaient pourtant toutes subi des tests antigéniques avant d'embarquer sur le Costa Smeralda. Abject, la pancarte au message manifestement antisémite brandie par une antipasse. C'était samedi lors de la manifestation à Metz. Une enquête est ouverte sur la banderole de cette manifestante photographiée dans le cortège. Le slogan Mickey, associé au mot traître et à plusieurs noms de personnalités dont la plupart appartiennent façon de confession juive. Indignation de l'ambassade d'Israël en France. L'image a fait le tour des réseaux sociaux. Anaïg Haute.
Sur l'image partagée des centaines de fois sur les réseaux sociaux, on peut voir une jeune femme qui brandit une pancarte sur laquelle on peut lire des noms dont certains sont juifs autour du slogan « Mais qui ?». En découvrant cette affiche, la LICRA annonce qu'elle va porter plainte. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dénonce une pancarte abjecte et demande au préfet de faire un signalement au parquet. C'est chose faite, explique Claude Dulamont, la sous-préfète de permanence.
L'enquête en flagrance a été déjà engagée par le procureur de la République de Metz. Monsieur le préfet de la Moselle saisit également le parquet avec un article 40, c'est-à-dire que c'est un article pour demander à ce qu'il puisse y avoir une enquête, mais ça va corroborer, si vous voulez, l'enquête engagée par monsieur le procureur à son initiative. Tout ça va faire que la personne devrait être entendue rapidement, la personne supposée.
La personne identifiée serait une ancienne cadre du Front National qui a quitté le parti il y a quelques années.
Anaïg Haute, des villages réduits en cendres, des pinèdes embrasées sur le front des incendies, l'île grecque de Bé reste le point le plus préoccupant du pays. En proie au feu depuis 6 jours, cette langue de terre coincée entre l'Attique et la mer Égée offre un panorama apocalyptique. Et puis les Californiens l'ont appelé Dixie Fire. C'est le deuxième incendie le plus vaste de l'histoire de l'État américain. 5000 pompiers combattent sans relâche le brasier situé au nord de Sacramento depuis le 13 juillet. Des milliers d'habitants ont fui la région. Beaucoup d'entre eux se sont réfugiés dans des camps de fortune. Et alors que les images d'inondations et d'incendies font la une à travers le monde, les experts climatiques de l'ONU publie ce matin leur nouvelle prévision climatique. À 3 mois de la conférence climat COP26, il est l'avertissement le plus sévère jamais lancé sur le rôle du comportement humain dans le réchauffement de la planète. L'urgence, c'est maintenant. Le rapport du GIEC sur le climat sera dévoilé ce matin. Étienne Monin.
Ce rapport devrait agir à la fois comme un moment de vérité sur ce qui est en train de se passer autour de nous en ce moment avec les pluies diluviennes et les incendies, et comme un levier sur le plan politique pour inciter les décideurs à accélérer la transition climatique avant la COP. Ce que devraient apporter les scientifiques du GIEC, c'est un état des lieux du réchauffement et de ses conséquences avec les phénomènes extrêmes, basé sur des systèmes de mesure les plus sophistiqués du moment. Le GIEC a fait une série de projections pour mesurer l'ampleur du réchauffement et évaluer l'impact sur les pics de chaleur, les pluies diluviennes, les sécheresses. Derrière, la question est de savoir si la planète peut espérer contenir le réchauffement à 1,5 degré, comme espéré par l'accord de Paris. Le GIEC a déjà montré que chaque cran dans l'augmentation des températures aggrave les conséquences climatiques. En 2018, il estimait qu'au rythme actuel, les 1,5 degré seraient atteints entre 2030 et 2052.
Étienne Monin.
La suite du journal avec Laurence Thomas, il est 7h09. Autre conséquence du dérèglement climatique, l'épisode de gel qui a durement touché une grande partie des vergers et des vignobles français.
On s'en souvient, c'était en avril. En quelques nuits, la moitié de la production annuelle de fruits a été détruite. Et cet été pluvieux n'arrange rien. Les niveaux de production de fruits sont historiquement bas, Fabien Cazot.
Durement frappé par le gel au printemps, la production d'abricots représentera cette année à peine la moitié du niveau d'une année normale. Il s'agit de la récolte la plus faible depuis 42 ans selon les statistiques du ministère de l'Agriculture. Même tendance pour les cerises, jusqu'à moins 70% de production dans certaines régions, ou encore les pêches et les nectarines, 40 à 45% de pertes. La production viticole devrait-elle aussi marquer le pas? Là aussi, les rendements affichent des records à la baisse, du jamais vu depuis 45 ans, car au gel du printemps sont venus s'ajouter des maladies de la vigne comme l'oïdium et le mildiou, favorisés par la pluie qui est tombée cet été sur de nombreux vignobles, en particulier dans le nord-est et le centre de la France. Face à cette situation exceptionnelle, le gouvernement avait débloqué au printemps une enveloppe d'1 milliard d'euros en soutien aux viticulteurs et aux arboriculteurs concernés. Il devrait également lancer à la rentrée une réforme des assurances couvrant les risques de mauvaise récolte.
Et on reviendra, on reviendra bien sûr sur toutes ces conséquences pour les agriculteurs avec la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, dans une grosse demi-heure au micro d'Inter.
Les talibans poursuivent leur offensive dans le nord de l'Afghanistan. Ils continuent de s'emparer des capitales régionales. 5 sur 34 sont retombés entre leurs mains. Après de violents combats, les insurgés ont pris possession de la ville de Kunduz, à 300 km de Kaboul. Kunduz, une ville de 300 000 habitants, déjà conquise deux fois ces dernières années par les talibans. Il s'agit indéniablement d'un succès militaire. Dans ce contexte, une question, la capitale Kaboul est-elle menacée à court terme? Écoutez la réponse de Georges Lefeuvre, enseignant à l'IRIS, spécialiste de la zone Afghanistan-Pakistan-Inde.
En 1996, ils avaient fait toute la conquête du sud et de l'est de l'Afghanistan, qui est peuplée essentiellement de Pashtuns, puisque les talibans sont à l'origine 100% Pashtuns. Ils avaient donc pris le sud, ils avaient pris l'est, ils avaient pris Kaboul, et puis ils avaient essayé de prendre le nord. Et ils s'étaient heurtés à la résistance de l'Alliance du Nord, dirigée par Rachid Dostum, et dirigée aussi par le fameux commandant Massoud. Cette fois-ci, ils ont fait l'inverse. Ils ont pris d'abord le nord, extrêmement rapidement, mais le travail était préparé. Parce qu'aujourd'hui, les talibans ne sont plus 100% Pashtuns. Ils ont fait l'ouverture. Il y a beaucoup d'ouzbeks dans leur rang. Il y a beaucoup de tadjiks aussi dans leur rang. Shebergan, c'est quand même le fief d'un grand seigneur de guerre, Rachid Dostum, sur lesquels les autorités y comptaient pour contrer l'avancée des talibans. Donc c'est une situation très grave.
Georges Lefeuvre, enseignant à l'IRIS, joint par Nabila Amar. Paris 2024, c'est parti. Le drapeau olympique a changé de main hier à Tokyo. L'Olympiade parisienne est donc lancée. La maire de Paris, Anne Hidalgo, se projette maintenant sur ce rendez-vous qu'elle ambitionne de partager avec tous les Français. Anne Hidalgo au micro de Farida Noir.
On a dit que les Jeux seraient sobres, on a dit que les Jeux seraient écologiques, on a dit que les Jeux seraient sobres aussi budgétairement. Ça, il faut cocher les cases, remplir ces engagements-là, et on va les remplir. Hein, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Et puis, je souhaite aussi que les Jeux soient populaires. Ça veut dire faire participer la population à la préparation. C'est pour ça que je veux faire un tour de France avec Tony, du drapeau dans un certain nombre de villes, parce que c'est en partageant ces émotions, ce positif, cet espoir que sont les Jeux à Paris. Et pour ça, il faut embarquer, en tous les cas, permettre à toute la population de s'y embarquer.
Anne Hidalgo, la maire de Paris, avec Farida Noir.
Et elle parlait de Tony Estanguet, bien sûr, président de Paris 2024. Merci Laurence Thomas. Le Zoom dans une poignée de minutes. Cette semaine, on sonde la France à 8 mois de la présidentielle. Un état des lieux. On commence ce matin avec la ville transformée par le vélo.